Le journal de George Fox 1656-1657 en route vers l'Écosse, page 3-3 de cet endroit je voyageais au pays de Galles, tenant plusieurs réunions jusqu'à ce que j'arrivasse à Tenby. Et tandis que je remontais la rue à cheval, un juge de paix sortit de sa maison, me pria de descendre de mon cheval et de demeurer chez lui, ce que je fis. Le premier jour, le maire avec sa femme et plusieurs autres officiers importants de la ville entrèrent vers la 10e heure et restèrent pendant toute la durée de la réunion. Ce fut une réunion glorieuse. John Upjohn, qui m'accompagnait, quitta la réunion et alla à l'église, pour cela le gouverneur le fit jeter en prison. Le second jour, au matin, le gouverneur envoya l'un de ses officiers chez le juge de paix pour m'arrêter. Cela affligea le maire et le juge de paix, qui se trouvaient tous deux avec moi dans la maison du juge lorsque l'officier arriva. Le maire et le juge de paix allèrent chez le gouverneur avant moi, et quelque temps après je m'y rendis avec l'officier. Quand j'entrai, je dis « La paix soit sur cette maison ». Et avant que le gouverneur ne pût m'interroger, je lui demandai « Pourquoi avez-vous fait mettre mon ami en prison ?» Il dit « Pour être resté couvert dans l'église ». Je dis « Le prêtre n'avait-il pas deux coiffes sur la tête, une noire et une blanche ?» Coupez le bord du chapeau de mon ami, et alors il n'en aura plus qu'un, et le bord du chapeau ne servait qu'à le défendre du mauvais temps. « Ce sont des choses frivoles, » dit le gouverneur. « Pourquoi donc, repris-je, faites-vous emprisonner mon ami pour de telles choses frivoles ?» Puis il me demanda « Si je reconnaissais l'élection et la réprobation. »« Oui, dis-je, et vous êtes dans la réprobation. » Cela le mit en fureur, et il dit « Il m'enverra en prison jusqu'à ce que je le prouve. » Je lui dis « Je le prouverai vite s'il veut confesser la vérité. » Je lui demandai « La colère, la fureur, la rage et la persécution ne sont-elles pas des marques de réprobation ?» Car celui qui est né de la chair a persécuté celui qui est né de l'esprit, mais le Christ et ses disciples n'ont jamais persécuté ni emprisonné personne. Il confessa franchement qu'il avait trop de colère, de hâte et de passion en lui. Je lui dis, « Ésaü est en vous, la première naissance, non Jacob la seconde. » La puissance du Seigneur atteignit tellement cet homme et l'emporta sur lui qu'il confessa la vérité, et l'autre juge de paix vint à moi et me serra aimablement la main. Comme je m'éloignais, je fus poussé à parler encore au gouverneur, il m'invita à dîner chez lui et mit mon ami en liberté. Je retournai à la maison de l'autre juge de paix, et quelque temps après, le maire et sa femme, le juge de paix et sa femme, et plusieurs autres amis de la ville nous accompagnèrent jusqu'à environ un demi-mille hors de la ville, au bord de l'eau, où nous les quittâmes, et là, au moment de nous séparer, je fus poussé par le Seigneur à m'agenouiller avec eux et à prier le Seigneur de les préserver. Ainsi, après les avoir recommandés au Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur et libre enseignant, nous partîmes dans la puissance du Seigneur, et à lui en revint la gloire. Une réunion se tient encore dans cette ville jusqu'à ce jour. Nous voyageâmes vers le Pembrokeshire, et dans la ville de Pembroke, nous eûmes quelques services pour le Seigneur. De là nous passâmes à Haverford West, où nous eûmes une grande réunion. Tout fut paisible, la puissance du Seigneur vint sur tous, beaucoup furent affermis dans la nouvelle alliance, Christ Jésus, et édifiés sur lui, leur rocher et leur fondement, et jusqu'à ce jour ils ont de précieuses réunions. Le lendemain, qui était jour de foire, nous traversâmes la foire et sonnâmes le jour du Seigneur et sa vérité éternelle parmi eux. Après cela, nous entrâmes à midi dans un autre comté, dans une grande ville de marché. Nous allâmes à plusieurs auberges avant de pouvoir obtenir quelque nourriture pour nos chevaux. Enfin nous en trouvâmes une où nous en eûmes. Alors John Upjohn, qui était avec moi, alla parler dans toute la ville, déclarant la vérité au peuple, et lorsqu'il revint vers moi, il dit qu'il pensait que tous les gens de la ville dormaient. Au bout d'un moment, il fut poussé à aller de nouveau déclarer la vérité dans les rues, alors la ville fut en émoi, et ils le jetèrent en prison. Peu après, plusieurs des principaux de la ville vinrent avec d'autres à l'auberge où j'étais et dirent « Nous avons mis votre homme en prison ». Je demandai « Pourquoi ?» Ils dirent « Il a prêché dans nos rues ». Je leur demandai « Qu'a-t-il dit ?» A-t-il repris quelques ivrognes et jureurs, les a-t-il avertis de se repentir, de cesser leurs mauvaises actions et de se tourner vers le Seigneur? Je leur demandai, qui l'a fait mettre en prison? Ils dirent, le haut shérif, les juges de paix et le maire. Je leur demandai leur nom, et s'ils se comprenaient eux-mêmes. Et si telle était leur manière d'agir envers des voyageurs qui traversaient leur ville? Était-ce leur manière d'agir envers des étrangers qui les admonestaient, les exhortaient à craindre le Seigneur et reprenaient le péché à leur porte? Ces gens s'en allèrent et rapportèrent aux officiers ce que j'avais dit, et au bout d'un moment, ils amenèrent John Upjohn, gardé par des hommes armés, se préparant à le chasser de la ville. J'étais à la porte de l'auberge et je demandai aux officiers de lâcher prise. Ils dirent, « Le maire et les juges de paix nous ont commandé de le mettre hors de la ville. » Je leur dis, « Je parlerai à midi avec leur maire et leurs juges de paix, au sujet de leur conduite incivile et non chrétienne envers lui. » Je dis à John d'aller s'occuper des chevaux et de les préparer, et j'enjoignis aux officiers de ne pas le toucher. Puis, après leur avoir déclaré la vérité, montré les fruits de leurs prêtres et leur incivilité et conduite non chrétienne, ils s'en allèrent et nous laissèrent. C'était une sorte d'indépendant, une ville très méchante et fausse. Nous priâmes l'aubergiste de donner à nos chevaux un boisseau d'avoine, et à peine avions-nous tourné le dos que l'avoine avait été volée à nos chevaux. Après nous être un peu rafraîchis et être prêts, nous montâmes à cheval et allâmes à l'auberge où se trouvaient le maire, le shérif et les juges de paix. Je les appelai pour leur parler et leur demander la raison pour laquelle ils avaient emprisonné John Upjohn et l'avaient gardé en prison 2 à 3 heures. Mais ils ne me répondirent pas un mot, ils ne firent que me regarder par les fenêtres. Je leur montrai combien leur conduite envers des étrangers et des voyageurs était peu chrétienne, manifestait les fruits de leur maître. Je leur déclarai la vérité et les avertis du jour du Seigneur qui venait sur tous les malfaiteurs, et la puissance du Seigneur vint tellement sur eux qu'ils parurent honteux, mais je ne pus obtenir d'un mot de réponse. Ainsi, après les avoir avertis de se repentir et de se tourner vers le Seigneur, nous partîmes, et le soir nous arrivâmes à une petite auberge, très pauvre, mais très bon marché, car notre nourriture et celle de nos 2 chevaux ne nous coûta que 8 pences, mais les chevaux ne voulurent pas manger leur avoine. Nous déclarâmes la vérité aux gens du lieu et sonnâmes le jour du Seigneur à travers les contrées. De là nous arrivâmes dans une grande ville et allâmes à une auberge. Edward Edwards entra sur le marché et déclara la vérité parmi le peuple. Ceux-ci le suivirent jusqu'à l'auberge, remplirent la cour et se montrèrent extrêmement grossiers. Pourtant nous eûmes un bon service pour le Seigneur parmi eux, car la vie du christianisme et sa puissance tourmentaient leurs esprits vains et légers, et vinrent tellement sur eux que certains furent touchés et convaincus. La puissance du Seigneur vint sur tous, et les magistrats furent liés. Ils n'avaient aucun pouvoir pour intervenir contre nous. Après cela, nous arrivâmes dans une autre grande ville un jour de marché, où John Upjohn déclara la vérité éternelle dans les rues et proclama le jour du Seigneur. Le soir, beaucoup se rassemblèrent autour de l'auberge, et quelques-uns, étant ivres, feignaient de vouloir nous faire ressortir dans la rue, mais voyant leur dessein, je leur dis, s'il en est qui craignent Dieu et désirent entendre la vérité, qu'ils viennent dans notre auberge, sinon nous aurons une réunion avec eux demain matin. Nous eûmes quelques services pour le Seigneur parmi eux, tant cette nuit-là que le matin, et bien qu'ils résistassent à recevoir la vérité, pourtant la semence fut semée, et dans cette région le Seigneur s'est assemblé un peuple à lui. Aussi dans cette auberge, comme je tournais le dos à l'homme qui donnait de l'avoine à mon cheval, je regardais derrière moi et il remplissait ses poches d'avoine. Quel peuple méchant et voleur, dérobé à la pauvre bête muette sa nourriture, j'eusse préféré qu'il me volasse moi. En quittant cette ville et en poursuivant notre route, un homme riche nous rejoignit à cheval. Comme il nous le dit ensuite, il avait eu l'intention de nous faire arrêter dans la ville suivante, comme étant des voleurs qui dépouillaient les voyageurs sur la route. Mais avant d'arriver à la ville, je fus poussé par le Seigneur à lui parler. Ce que je dis atteignit le témoignage de Dieu en cet homme, si bien touché par mes paroles qu'il nous invita chez lui et nous reçut très civilement. Lui et sa femme nous demandèrent de leur donner quelques passages des Écritures, à la fois pour prouver nos principes et pour s'en servir contre les prêtres. Nous fûmes heureux de rendre service et lui en fournîmes suffisamment, il les nota, et fut convaincu de la vérité, tant par l'Esprit de Dieu dans son propre cœur que par les Écritures, qui lui en furent la confirmation. Ensuite il nous remit en route, et comme nous voyagions, nous arrivâmes à une colline que les gens du pays disent haute de 2 ou 3 milles, du flanc de cette colline je pouvais voir au loin. Et je fus poussé à tourner mon visage de plusieurs côtés, et à y sonner le jour du Seigneur, et je dis à John Upjohn, fidèle ministre gallois, en quel lieu Dieu susciterait pour lui-même un peuple, pour s'asseoir sous son propre enseignement. John prit note de ces lieux, et depuis, un grand nombre de personnes ont été suscitées en ces endroits. J'ai été de même poussé à faire les mêmes proclamations dans bien d'autres parties du pays habitées par des gens grossiers. J'ai été poussé à déclarer que le Seigneur avait une semence en ces lieux. Et ensuite il s'y est élevé un vaillant peuple dans l'Alliance de Dieu, rassemblé au nom de Jésus, où ils ont le salut et un libre enseignement. De cette colline nous arrivâmes à Dolgel et allâmes à une auberge. John Upjohn déclara la vérité dans les rues, et les gens de la ville se levèrent et se rassemblèrent autour de lui. Il y avait 2 prêtres indépendants dans la ville, ils sortirent ensemble tous 2 et commencèrent à parler à John. J'allai vers eux, et les trouvant parler en gallois, je leur demandai quel était le sujet dont ils parlaient et pourquoi ils n'étaient pas plus modérés en parlant l'un après l'autre. Car les choses de Dieu, leur dis-je, sont graves, et on doit en parler avec crainte et révérence. Puis je les priai de parler en anglais afin que je puisse m'entretenir avec eux, et ils le firent. Ils affirmèrent que la lumière dont John venait rendre témoignage était une lumière créée, naturelle, fabriquée. Je pris la Bible et leur montrai, comme je l'avais déjà fait à d'autres, que les lumières naturelles qui furent faites et créées sont le soleil, la lune et les étoiles, mais cette lumière dont John rend témoignage, et qu'il appelle la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, est la vie dans le Christ, la parole, par laquelle toutes choses furent faites et créées. Cette même réalité, qui est appelée la vie dans le Christ, est appelée la lumière dans l'homme. C'est une lumière céleste, divine, qui fait voir aux hommes leurs mauvaises paroles et leurs mauvaises actions, et leur montre tous leurs péchés. Et s'ils y prêtaient attention, les conduirait au Christ d'où elle vient, afin qu'ils le connaissent pour qu'il les sauve de leurs péchés et les fasse. Cette lumière, leur dis-je, brillait dans les ténèbres de leur cœur, et les ténèbres en eux ne pouvaient la comprendre, mais dans ces cœurs où Dieu a commandé qu'elle brille hors des ténèbres, elle donne à cela la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Christ Jésus, leur Sauveur. 2 Cor 4, 6. Je leur ouvris largement les Écritures et les ramenai à l'Esprit de Dieu dans leur cœur, qui leur révélerait les mystères des Écritures et les conduirait dans toute la vérité, à mesure qu'ils lui seraient soumis. Je les dirigeais vers ce qui donnerait à chacun de la connaissance du Christ, mort pour eux, afin qu'il fût leur chemin vers Dieu et qu'il fît la paix entre Dieu et eux. Le peuple était attentif, et je demandai à John Ap John de se lever et de le leur dire en gallois, ce qu'il fit, et ils le reçurent généralement, et les mains levées bénirent et louèrent Dieu. La bouche des prêtres fut fermée, de sorte qu'ils restèrent tranquilles tout le temps, car je les avais amenés dès le début à plus de sobriété en leur disant que, lorsqu'ils parlaient des choses de Dieu et du Christ, ils devaient le faire avec crainte et révérence. Ainsi la réunion se termina paisiblement dans la rue. Beaucoup de gens nous accompagnèrent jusqu'à notre auberge et se réjouirent de la vérité qui leur avait été déclarée, et d'avoir été tournés vers la lumière et l'esprit en eux-mêmes, par lesquels ils pouvaient voir leurs péchés et connaître le salut qui en délivre. Lorsque nous sortîmes de la ville, les gens étaient si touchés qu'ils levèrent les mains et bénirent le Seigneur pour notre venue. Le Seigneur y a une semence précieuse, là et dans les environs, et depuis, un grand nombre de personnes dans ces régions se sont rassemblées au Seigneur Jésus-Christ pour s'asseoir sous son libre enseignement, et ils ont beaucoup souffert pour lui. De là nous passâmes à Caernarvon, une ville semblable à un château. Après avoir mis nos chevaux à l'écurie d'une auberge et nous être rafraîchis, John Ap John alla parler dans les rues, si étroites et si courtes qu'on aurait pu se tenir au milieu de la ville et voir les deux portes. Je suivis John Ap John, et bientôt une multitude de gens se rassembla autour de lui. Parmi eux un prêtre très sombre se mit à bredouiller, mais sa bouche fut bientôt fermée. Quand John eut fini, je déclarai la parole de vie parmi le peuple, les dirigeant vers la lumière du Christ dans leur cœur, afin que par elle ils puissent voir toutes leurs propres voies, religions et maîtres, et les quitter tous pour aller à Christ, la voie vraie et vivante et le libre enseignant. Quelques-uns étaient grossiers, mais la plupart étaient civils, et ils nous dirent qu'ils avaient entendu comment on nous avait persécutés et maltraités en beaucoup de lieux, mais qu'ils ne nous feraient pas cela là. Je louai leur modération et leur sobriété, et les avertis du jour du Seigneur qui venait sur tout péché et toute méchanceté, leur rendant témoignage que le Christ était maintenant venu pour enseigner lui-même son peuple, par son esprit et sa puissance. De là nous allâmes à Beaumarie, une ville où John Ap John avait autrefois été prédicateur d'une assemblée. Après avoir mis nos chevaux à l'auberge, John alla parler dans la rue, et comme il y avait une garnison de soldats dans la ville, ils l'arrêtèrent et le mirent en prison. La femme de l'aubergiste vint me dire que le gouverneur et les magistrats envoyaient me chercher pour me faire mettre en prison aussi. Je lui dis qu'ils avaient déjà fait plus qu'ils ne pourraient en répondre et qu'ils avaient agi contre le christianisme en l'emprisonnant pour avoir repris le péché dans leurs rues et à leurs portes et pour avoir déclaré la vérité. Peu après, d'autres personnes amicales vinrent me dire que si je sortais dans la rue, ils m'emprisonneraient aussi et qu'ils voulaient donc que je reste dans l'auberge. À ce moment-là, je fus poussé à sortir et à marcher de long en large dans la rue, et je dis aux gens quelle chose incivile et non chrétienne ils avaient faite en jetant mon ami en prison. Et comme ils étaient de grands professeurs, je leur demandai si c'était là leur manière de recevoir des étrangers, et s'ils voulaient eux-mêmes être traités ainsi, et si eux, qui regardaient les Écritures comme leur règle, avaient quelque exemple dans les Écritures, de la part du Christ ou de ses apôtres, pour ce qu'ils avaient fait. Ainsi, au bout d'un moment, ils mirent John Ap John en liberté. Le lendemain était jour de marché, et nous devions traverser une grande rivière, et non loin de l'endroit du bac, beaucoup de gens du marché vinrent à nous. Parmi nous eûmes un bon service pour le Seigneur, leur déclarant la parole de vie et la vérité éternelle, et proclamant parmi eux le jour du Seigneur, qui venait sur toute méchanceté, et les dirigeant vers la lumière du Christ, dont lui, l'homme céleste, les avait tous éclairés afin qu'ils puissent voir tous leurs péchés, toutes leurs fausses voies, religions, cultes et maîtres, et par cette main. Après que la vérité leur eût été déclarée dans la puissance de Dieu, et que Christ, le libre enseignant, eût été placé au-dessus de tous les maîtres à gages, je dis à John Ap John de faire entrer son cheval dans le bateau, qui était alors prêt. Mais il y eut une compagnie de gentilshommes sauvages, comme on les appelle, qui montèrent dans le bateau. Nous les trouvâmes très grossiers et fort peu gentils, eux et d'autres empêchaient le cheval de John d'entrer dans le bateau. Je m'avançai au bord du bateau et leur parlai, leur montrant quelle action peu virile et non chrétienne c'était et leur disant qu'ils montraient un esprit indigne, en dessous du christianisme et même de l'humanité. Tandis que je parlais, je guidai mon cheval pour qu'il saute dans le bateau parmi eux, pensant que le cheval de John suivrait en voyant le mien entrer avant lui, mais l'eau était assez profonde, et John ne parvint pas à faire entrer son cheval dans le bateau. À cause de cela, étant encore à cheval, je dirigeai mon cheval pour qu'il ressorte du bateau et saute dans l'eau, où je restai avec John de ce côté de la rivière jusqu'au retour du bateau. Nous restâmes là de 11 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, attendant que le bateau revienne nous prendre. Il nous restait encore 42 milles à parcourir ce soir-là, et, après avoir payé notre passage, il nous restait entre nous que 4 pences. Nous parcourûmes environ 16 milles, puis nous trouvâmes un peu de foin pour nos chevaux. Repartant de nuit, nous arrivâmes à une petite taverne, où nous espérions rester et attendre. Mais voyant que nous n'y pouvions obtenir ni avoine ni foin, nous voyageâmes toute la nuit, et vers 5 heures du matin nous arrivâmes à un endroit à moins de 6 milles de Wrexham. Là ce même jour, nous rencontrâmes beaucoup d'amis, et nous eûmes une réunion glorieuse, la puissance et la vérité éternelle du Seigneur étaient sur tout, et une réunion s'y tient encore jusqu'à ce jour. Nous étions très fatigués d'avoir tant voyagé à travers le pays de Galles, et en beaucoup d'endroits nous avions eu peine à trouver de la nourriture pour nos chevaux comme pour nous-mêmes. Le lendemain, nous passâmes de là dans le Flintshire, sonnant le jour du Seigneur à travers les villes, et nous arrivâmes à Wrexham de nuit. Ici beaucoup des gens de Floyd vinrent à nous, mais ils étaient très grossiers, sauvages et légers, et ils avaient peu de sens de la vérité, pourtant certains furent convaincus dans cette ville. Le lendemain matin, une femme qu'on appelait une dame envoya me chercher, elle entretenait un prédicateur dans sa maison. J'allai chez elle, mais je trouvai qu'elle et son prédicateur étaient très légers et frivoles, trop légers pour recevoir les choses graves de Dieu. Dans sa légèreté, elle vint me demander si elle pouvait me couper les cheveux. Je fus poussé à la reprendre et à lui dire de couper en elle ses corruptions avec l'épée de l'Esprit de Dieu. Ainsi, après l'avoir admonestée d'être plus grave et sobre, nous partîmes. Ensuite, dans sa pensée frivole, elle se vanta qu'elle était venue derrière moi et avait coupé les boucles de mes cheveux, mais elle mentait. De Wrexham, nous arrivâmes à Westchester, et comme c'était le temps de la foire, nous y restâmes quelque temps et visitâmes les amis. Car j'avais parcouru chaque comté du pays de Galles, prêchant l'évangile éternel du Christ, et il y a maintenant là un vaillant peuple, qui a reçu l'évangile et est assis sous l'enseignement du Christ. Mais avant de quitter le pays de Galles, j'écrivis au magistrat de Beaumary au sujet de l'emprisonnement de John Ap John, leur faisant voir leur état, les fruits de leur christianisme et de leur maître. Ensuite je rencontrai certains d'entre eux près de Londres, et oh, combien ils avaient honte de leur action. De Westchester, nous arrivâmes à Liverpool, où se tenait une foire, et comme je traversais la foire à cheval, un ami se tenait là sur la croix, déclarant la vérité au peuple. Lorsqu'il me vit passer, sachant que j'avais fixé une réunion pour le lendemain sur une colline non loin de là, il annonça au peuple que George Fox, serviteur du Seigneur, tiendrait une réunion le lendemain sur cette colline, et que si quelqu'un craignait le Seigneur, il pouvait y venir et l'entendre leur déclarer la parole de vie. Cette nuit-là, nous allâmes chez Richard Coban, qui lui-même était convaincu, quoique sa femme ne le fût pas, mais lors de ma visite elle fut convaincue aussi. Le lendemain nous allâmes à la réunion au sommet de la colline, qui fut très grande. Quelques gens grossiers, avec la femme d'un prêtre, vinrent et firent du bruit un moment, mais la puissance du Seigneur vint sur eux, la réunion devint tranquille, et la vérité de Dieu fut déclarée parmi eux. Ce jour-là, beaucoup furent affermis sur le rocher et le fondement, Christ Jésus sous son enseignement, lui qui faisait la paix entre Dieu et eux. Nous eûmes une petite réunion avec quelques amis et des gens à Malpos. De là nous arrivâmes à un autre endroit, où nous eûmes une réunion. Un bailli y vint avec une épée, et il fut grossier, mais la puissance du Seigneur vint sur lui, et les amis furent établis dans la vérité. De là nous allâmes à Manchester, et comme les assises s'y tenaient ce jour-là, beaucoup de gens grossiers étaient venus des campagnes alentour. Dans la réunion ils me jetèrent des charbons, des mottes, des pierres et de l'eau, pourtant la puissance du Seigneur me soutint au-dessus d'eux, de sorte qu'ils ne purent m'abattre. Enfin, voyant qu'ils ne pouvaient l'emporter en me jetant de l'eau, des pierres et de la boue, ils allèrent informer les juges aux assises, qui envoyèrent des officiers pour m'amener devant eux. Les officiers entrèrent pendant que je déclarais la parole de vie au peuple, m'arrachèrent de là et me traînèrent dans leur tribunal. Quand j'y entrai, toute la cour était en désordre et bruyante. Alors je demandai, « Où sont les magistrats, qui n'ont pas maintenu le peuple dans la civilité ?» Certains juges dirent qu'ils étaient magistrats. Je leur demandai, « Pourquoi donc n'apaisiez-vous pas le peuple et ne le maintenez-vous pas dans la sobriété ?» Car l'un criait, « Je jure », et un autre criait, « Je jure ». Je déclarai aux juges, comment nous avions été maltraités dans notre réunion par des gens grossiers qui jetaient des pierres, des mottes, de la boue et de l'eau, et comment on m'avait traîné hors de la réunion et amené là, contrairement à l'instrument de gouvernement, qui disait que nul ne devait être molesté dans ces réunions, s'il professait Dieu et reconnaissait le Seigneur Jésus-Christ, ce que je faisais. La vérité vint si puissamment sur eux que, lorsqu'un des grossiers partisans cria qu'il jurait, l'un des juges le reprit en disant, « Que jurez-vous ? Taisez-vous. » Enfin ils ordonnèrent au constable, « Conduisez-le à son logis, et qu'il y soit gardé jusqu'à demain matin, lorsque nous le ferons chercher de nouveau. » Ainsi le constable me conduisit à mon logis. En chemin le peuple fut extrêmement grossier, mais je leur fis voir les fruits de leur maître, comment ils faisaient honte au christianisme et déshonoraient le nom de Jésus qu'ils professaient. Le soir nous allâmes chez un juge de la ville, assez modéré, et j'eus beaucoup d'entretien avec lui. Le lendemain matin nous envoyâmes vers le constable pour savoir s'il avait encore quelque chose à nous dire. Il nous fit répondre qu'il n'avait rien à nous dire et que nous pouvions aller où nous voudrions. Depuis, le Seigneur a suscité dans cette ville un peuple pour se tenir pour son nom et sa vérité, au-dessus de ses professeurs vains et légers. Nous passâmes de Manchester, tenant beaucoup de précieuses réunions en plusieurs endroits, jusqu'à ce que nous arrivions à Preston, entre cette ville et Lancaster, j'eus une réunion générale, puis j'allai à Lancaster. Là, à notre auberge, je rencontrai le colonel West, qui fut très heureux de me voir, lui qui, ayant rencontré le juge Fell, lui avait dit que j'avais puissamment grandi dans la vérité, alors qu'en réalité c'était lui qui s'était approché davantage de la vérité, et pouvait ainsi mieux la discerner. Nous allâmes de Lancaster chez Robert Withers. Le premier jour suivant, j'eus une réunion générale près du rivage des sables avec les amis de Westmoreland et du Lancashire. La puissance éternelle du Seigneur était sur tout, en elle la parole de vie éternelle fut déclarée, et les amis furent affermis sur le fondement, Christ Jésus, sous son libre enseignement, et beaucoup furent convaincus et se tournèrent vers le Seigneur. Le lendemain, je traversai les sables jusqu'à Swarthmore, où les amis furent heureux de me voir. J'y restai de premiers jours, visitant les amis dans leur réunion. Ils se réjouirent avec moi de la bonté du Seigneur, qui par sa puissance éternelle m'avait fait passer à travers et au-dessus de nombreuses difficultés et dangers dans son service, à lui la louange pour toujours. Ayant obtenu quelques répits du voyage, je fus poussé à écrire une épître aux amis, ainsi qu'il suit, à tous les amis du Seigneur partout dont l'esprit est tourné vers le Seigneur, prenez garde à la lumière au-dedans de vous, qui est la lumière du Christ, et qui, si vous l'aimez, appellera votre esprit au-dedans, vous qui êtes au-dehors dans les choses de ce monde. Ainsi votre esprit pourra être renouvelé par aller tourner vers Dieu dans ce qui est pur, pour adorer le Dieu vivant, le Seigneur des armées, au-dessus de toutes les choses du monde. Ce qui appelle votre esprit hors des convoitises du monde l'appellera hors des affections et des désirs, et vous tournera à mettre vos affections sur les choses célestes à la place. Ce même qui appelle l'esprit hors du monde portera jugement sur les affections et les convoitises du monde. Ce même appelle votre esprit hors des maîtres du monde et des choses, afin que votre esprit soit renouvelé. Là votre obéissance est connue et trouvée, là l'image de Dieu est renouvelée en vous, et vous y grandissez. Ce qui appelle votre esprit hors de la terre le tourne vers Dieu, là où le pur enfant naît de la Vierge, et la nourriture de l'enfant est connue, le pain des enfants, qui vient du Dieu vivant et nourrit jusqu'à la vie éternelle. C'est de là que les enfants et les petits reçoivent leur sagesse d'en haut, du Dieu pur et vivant, et non des hommes du monde, car cette sagesse céleste est foulée aux pieds par de tels hommes. Tous ceux qui haïssent cette lumière, dont l'esprit est au dehors dans les choses du monde, dans le monde et dans l'image du diable, prennent les paroles des saints, qui reçurent leur sagesse d'en haut dans leur vieille nature et leur esprit corrompu. De tels gens sont des meurtriers du juste et des ennemis de la croix du Christ, en eux loge le prince de l'air, fil de perdition, traître du juste. C'est pourquoi prenez garde à cette lumière, qui est opprimée par la nature charnelle, cette lumière, à mesure qu'elle se lève, condamnera toute cette nature maudite, l'expulsera et la chassera de la maison. Ainsi vous viendrez à voir la chandelle allumée, et la maison balayée et purifiée, puis ensuite la perle pure se lève, et alors le Dieu éternel est exalté. Cette même lumière qui appelle votre esprit hors du monde, là où il est au dehors, le tourne vers Dieu, le Père des Lumières. Ici, dans l'esprit pur, on attend le Dieu pur pour la sagesse d'en haut, et le Dieu pur est vu nuit et jour, et l'on jouit de la paix éternelle qui n'a pas de fin. Des gens peuvent avoir des ouvertures, et pourtant leur esprit va dans les convoitises de la chair, mais là les affections ne sont pas mortifiées. Écoutez donc cela, Prenez garde à cela, qui appelle votre esprit hors des affections et des convoitises du monde pour le renouveler. Ce même tournera votre esprit vers Dieu, cette même lumière mettra vos affections en haut et vous amènera à attendre la sagesse pure de Dieu d'en haut, afin qu'elle soit justifiée en vous. Attendez tous en cela la lumière, qui appelle votre esprit au-dedans et le tourne vers Dieu, voici la vraie croix. Cet esprit ne se nourrira de rien de ce qui est du monde, mais sera gardé dans la lumière pure jusqu'à Dieu, pour se nourrir de la nourriture vivante qui vient du Dieu vivant. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous tous, chers petits, et vous garde tous dans sa force et sa puissance pour sa gloire, au-dessus de tout le monde, vous dont l'esprit en a été appelé et tourné vers Dieu, pour adorer le Créateur et le servir, et non la créature. La lumière de Dieu qui appelle l'esprit hors des créatures et le tourne vers lui-même introduit dans un état de joie et de paix sans fin. Ici, il y a toujours la vision de Dieu présent, que ne connaît pas le monde, dont le cœur est dans les créatures, dont la connaissance est dans la chair, dont l'esprit n'est pas renouvelé. C'est pourquoi, tous les amis, demeurez dans la semence de Dieu et portez-y votre attention, afin qu'elle règne sur l'injuste, et demeurez dans la puissance du Seigneur pour vous garder clair dans vos entendements, afin que la semence de Dieu règne en vous tous, la semence de Dieu, qui est une en tout, c'est le Christ dans l'homme et dans la femme, à qui va la promesse. Attendez le Seigneur, pour que le juste règne sur l'injuste, pour que la semence de Dieu règne sur la semence du serpent et soit la tête, et pour que tout ce qui est mortel meure, car de là s'élèvera la présomption. Ainsi portez-vous bien, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous guide et vous garde dans sa sagesse. George Fox à cette époque, des amis que le Seigneur poussait à aller aux églises et aux marchés pour reprendre le péché et avertir le peuple du jour du Seigneur souffrir beaucoup de la part de gens grossiers et aussi de la part des magistrats, étant communément jetés à terre, souffletés, battus et fréquemment envoyés en prison. Pour cette raison, je fus poussé à donner la déclaration suivante, à répandre parmi le peuple, pour lui montrer combien il agissait contrairement à la doctrine et à la pratique des apôtres et pour le conduire à plus de modération. N'est-il pas meilleur, pour vous qui avez jeté en prison les serviteurs et les enfants du Seigneur Dieu pour avoir parlé, comme ils y étaient poussés, dans les églises ou sur les marchés, n'est-il pas meilleur, dis-je, pour vous de tout éprouver et de retenir ce qui est bon? N'est-il pas plus honorable et plus digne de crédit d'éprouver toutes choses et de tout essayer, que de les renverser dans les églises, d'arracher les cheveux de leur tête et de les jeter en prison? Est-ce là un honneur rendu à votre vérité et à l'évangile que vous professez? Cela ne montre-t-il pas que vous êtes hors de la vérité et que vous n'êtes pas prêt à instruire ceux qui nient le Christ? Le Seigneur n'a-t-il pas dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, et sur mes servantes je répandrai de mon esprit. » Cette prophétie, dans les âges passés, n'a-t-elle pas été combattue par des hommes sages et savants dans leur propre sagesse, et par les maîtres des synagogues? Ce qui rendait témoignage de l'esprit répandu sur eux n'était-il pas traîné hors des synagogues et des temples? Cela ne montre-t-il pas que vous n'avez pas reçu l'effusion de son esprit sur vous, vous qui remplissez les prisons de tant de fils et de filles, et qui soutenez de tels maîtres élevés dans l'érudition à Oxford et Cambridge, faits par la volonté de l'homme? Cela ne montre-t-il pas que vous, qui y avez été élevés, qui êtes faits maîtres par la volonté de l'homme, et qui persécutez pour la prophétie, vous êtes étrangers à l'esprit qui est répandu sur les fils et les filles, par lequel esprit ils en viennent à exercer un ministère envers les esprits qui sont en prison. Le Seigneur a un différend avec vous qui vous trouvez à emprisonner et à persécuter ceux sur qui le Seigneur a répandu son esprit. Vos fruits ne montrent-ils pas, dans toute la nation où vous allez, dans les villes, cités, villages et campagnes, que vous êtes les semeurs faits par la volonté de l'homme, qui sème pour la chair, dont on ne récolte rien que corruption dans les nations, campagnes, cités et villages. Vous êtes observés, vous et vos fruits, et ce qu'on peut en recueillir est vu par tous ceux qui sont dans la lumière, lorsqu'ils traversent vos campagnes, villes, cités et villages, que vous êtes tous des semeurs qui ont semé pour la chair. Prenez en note, vous qui êtes de cette naissance née de la chair, vous semez pour vous-même, persécutant celui qui est né de l'esprit, qui sème pour l'esprit et de l'esprit moissonne la vie éternelle. Vous qui semez pour la chair, jetez en prison ceux qui sont nés de l'esprit. Ne traînez-vous pas hors des synagogues, ne persécutez-vous pas et ne battez-vous pas dans les synagogues, n'assommez-vous pas, ces choses ne sont-elles pas les œuvres de la chair? N'y en a-t-il pas beaucoup qui ont failli être assassinés et étouffés dans vos synagogues? N'en a-t-on pas traîné certains hors de vos synagogues pour avoir seulement regardé le prêtre, puis jeté en prison? Tout cela ne manifeste-t-il pas de quel esprit vous êtes, et que vos fruits sont de la chair? Quels plaisirs et divertissements voit-on dans chaque ville parmi vos troupeaux qui sèment pour la chair et en sont nés? tandis que les ministres de l'esprit criaient contre ceux qui se divertissaient en plein jour, ceux qui mangeaient et buvaient et se levaient pour jouer, ceux qui vivaient sur la terre dans les plaisirs, ceux qui vivaient dans l'abondance du pain et l'oisiveté, ceux qui souillent la chair, ceux-là, Dieu les a renversés, détruits et donnés en exemple à tous ceux qui, après, vivraient dans l'impiété. Or les fruits de cela ne sont-ils pas récoltés dans chaque ville? Ne pouvez-vous pas voir d'ici qu'ici on sème pour la chair encore? Quelle moquerie, quel sarcasme, quelle raillerie, quel mépris et quelle crêle, quel serment, ivrognerie, impureté et paroles maudites, quelle convoitise et quel orgueil voit-on dans les rues? Ces fruits, nous le voyons, sont moissonnés de la chair. Ainsi nous voyons ici le semeur, celui qui sème pour cette chair, dont on ne récolte rien que corruption, comme les campagnes, villes, cités et villages le manifestent. Mais les ministres de l'Esprit, qui sèment pour l'Esprit, en viennent à moissonner la vie éternelle. Ceux-ci discernent l'autre semeur, qui sème pour la chair et de la chair moissonne la corruption. Car le jour a manifesté chaque semeur, et ce qui est moissonné de chacun se voit, gloire au Seigneur Dieu pour toujours. Les ministres de l'Esprit, nés de l'Esprit, fils et filles sur qui l'Esprit a été répandu, et qui voient la promesse de Dieu accomplie en eux, par l'Esprit de Dieu prêchent et servent ce qui est de l'Esprit en prison en chacun, devant Dieu, le Père des Esprits. La main de Dieu est tournée contre vous tous qui avez détruit les créatures de Dieu selon vos convoitises. La main de Dieu est tournée contre vous qui avez fait tort par des pratiques injustes, qui avez fraudé et opprimé les pauvres, qui avez eu égard aux personnes des orgueilleux et n'avez pas prêté l'oreille aux cris du pauvre. La main et le bras du Seigneur sont tournés contre vous tous, et son juste jugement et sa justice sur vous tous seront accomplis et rendus, et chacun aura une récompense selon ses œuvres. Oh ! L'abomination et la profession hypocrite qui est sur la terre, où Dieu et Christ, la foi, l'espérance, le Saint-Esprit et la vérité sont professés, mais où l'on ne vit pas dans la crainte de Dieu, ni dans la foi qui purifie et donne la victoire sur le monde. Ne paraît-il pas que la sagesse qui règne en tout ce pour qui le semeur qui sème pour la chair sème, et qui sont nés de la chair, vient d'en bas, terrestre, sensuel et diabolique, leur intelligence brutale, et leur connaissance naturelle comme celle des bêtes. Car si dans cet état, hommes et femmes n'ont pas la patience de se parler les uns aux autres des Écritures sans que beaucoup de corruption et de chair paraissent, pourtant ils ont une humilité fin, un culte volontaire et une justice de soi, mais ils ne reconnaissent pas la lumière, qui éclaire tout homme venant au monde, Christ Jésus, justice de Dieu, cette lumière, lorsqu'elle est reconnue, amène à renier le moi et la justice de soi. Voici l'humilité qui est contraire à la lumière, qui est d'en bas et feinte, voici la sagesse d'en bas, terrestre, sensuelle et diabolique, car les gens ne peuvent presque pas différer les uns des autres sans se détruire les uns les autres, s'emprisonner et se persécuter, lorsqu'ils parlent des Écritures. C'est la sagesse diabolique qui tue et détruit. Ce n'est pas la sagesse d'en haut, qui est pure et pacifique, douce et facile à fléchir, pleine de miséricorde et de bons fruits. Ici tous peuvent lire chaque semeur, chacun a sa propre sagesse. Celui qui sème pour la chair et en est né à une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique, celui qui sème pour l'esprit, ministre de l'esprit, a la sagesse d'en haut pure, pacifique, douce et facile à fléchir, la sagesse par laquelle toutes choses ont été faites et créées. Maintenant chaque sagesse est découverte et chaque semeur, le jour, qui est la lumière, les a découverts. George Fox, je fus aussi poussé à donner l'épître suivante aux amis, pour les exciter à être hardis et vaillants pour la vérité, et pour les encourager dans les souffrances qu'ils enduraient pour elle. Tous les amis et frères partout, voici le jour de votre épreuve, voici le temps pour vous d'être vaillants et de veiller à ce que le témoignage du Seigneur ne tombe pas. Voici le jour pour l'exercice de vos dons, de votre patience et de votre foi. Voici le temps de vous armer de patience, de lumière, de justice et du casque du salut. Voici l'épreuve du serviteur paresseux, qui cache son talent et sera sévèrement jugé par le Christ. Maintenant, heureux sont ceux qui peuvent dire, « La terre est au Seigneur », et tout ce qu'elle renferme, et c'est lui qui donne l'accroissement, ou dès lors, qui vous l'enlève, n'est-ce pas encore le Seigneur qui le permet? Car le Seigneur peut vous éprouver comme il éprouva Job, qu'il rendit riche, qu'il rendit pauvre, et qu'il rendit riche de nouveau, lui qui garda son intégrité en toutes conditions. Apprenez la leçon de Paul, être content en toute situation, et ayez sa foi, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, que nous avons en Jésus-Christ. Soyez donc riches de vie et de grâce, qui demeureront, vous qui êtes héritiers de la vie et nés du sein de l'éternité, cette noble naissance qui ne peut s'abaisser à ce qui naît dans le péché et est conçu dans l'iniquité, vous qui êtes mieux élevés et mieux nés dont la religion vient de Dieu, au-dessus de toutes les religions d'en bas, et qui marchez par la foi parce que Dieu vous a donné, et non parce que les hommes fabriquent, eux qui marchent à vue du missel au directoire. Ceux-là sont sujets à trébucher et à tomber, qui marchent à vue et non par la foi. Portez donc votre attention sur celui qui détruit l'origine du péché, le diable et ses œuvres, et qui retranche l'héritage de Satan, c'est-à-dire le péché. lui qui voudrait, par droit d'hérédité, léguer aux hommes et aux femmes, de génération en génération, un héritage de péché, et qui plaide pour cela par tous ses avocats et conseillers. Car bien que la loi, qui n'a rien rendu parfait, ne l'ait pas retranché, pourtant le Christ étant venu, détruit le diable et ses œuvres, et retranche l'héritage du péché. Cela met en colère tous les avocats et conseillers du diable, que Satan ne puisse pas tenir le péché en héritage dans votre jardin, dans votre champ, dans votre temple, votre tabernacle. Gardez donc vos tabernacles, afin que vous puissiez y voir la gloire du Seigneur paraître aux portes de ceux-ci. Soyez fidèles, car vous voyez ce que les dignes et vaillants du Seigneur ont atteint par la foi, Enoch par la foi fut enlevé. Noé par la foi fut préservé sur les eaux dans son arche. Abraham par la foi quitta la maison et la religion de son père, et toutes les religions du monde. Isaac et Jacob par la foi suivirent ses pas. Voyez comment Samuel et d'autres prophètes du Seigneur, avec David par la foi, furent présentés à Dieu au-dessus de leurs ennemis. Daniel et les trois enfants, par la foi, échappèrent aux lions et au feu, et conservèrent leur culte pur, et par lui furent maintenus au-dessus des cultes du monde. Les apôtres, par la foi, parcoururent le monde en tous sens, furent préservés de toutes les religions du monde, et présentèrent la religion pure au monde obscur, qu'ils avaient reçu de Dieu, et de même, leur communion fut reçue d'en haut, dans l'Évangile qui est éternel. En cela, ni les puissances, ni les principautés, ni les trônes, ni les dominations, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni les moqueries, ni le dépouillement des biens, ni les prisons, ni les entraves ne purent les séparer de l'amour de Dieu qu'ils avaient en Jésus-Christ. Et amis, n'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties, là où il se meut, n'empêchez pas non plus les petits-enfants et les nourrissons de crier Hosanna, car de leur bouche Dieu établira la force. Il y en eut du temps du Christ qui était contre cela, et il les reprit, et il y en eut du temps de Moïse qui aurait voulu faire taire les prophètes dans le camp, Moïse les reprit et dit, pour les encourager, plus à Dieu que tout le peuple du Seigneur fut prophète, ainsi je vous le dis maintenant. Vous donc qui l'étouffez en vous-même, ne l'éteignez pas chez les autres, ni chez le petit-enfant ni chez le nourrisson, car le Seigneur entend les cris des nécessiteux, et les soupirs et gémissements des pauvres. Ne jugez pas cela, ni les soupirs et gémissements de l'esprit, qui ne peuvent être exprimés, de peur que vous ne jugiez la prière, car la prière réside aussi dans les soupirs et gémissements vers le Seigneur, autant que d'une autre manière. Que donc les fils et les filles, ni les servantes ne soient pas empêchés dans leur prophétie, ni les jeunes hommes dans leur vision, ni les vieillards dans leur songe, mais que le Seigneur soit glorifié en est par tous, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Ainsi chacun pourra faire fructifier ses talents, chacun exercer ses dons, et chacun parler selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Ainsi chacun pourra servir, comme il a reçu la grâce, en bon intendant envers celui qui la lui a donnée, afin que toutes les plantes puissent bourgeonner et porter du fruit à la gloire de Dieu, car la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Veillez à ce que chacun ait profité des choses célestes, hommes et femmes, regardez dans vos propres vignes, voyez quels fruits vous portez à Dieu, regardez dans vos propres maisons, voyez comme elles sont ornées et arrangées, voyez quel parfum, myrrhe et encens, vous y avez, et quelle odeur et quel arôme vous avez à faire monter vers Dieu afin qu'il soit glorifié. Amenez toutes vos actions à la lumière, en laquelle le Christ, votre chef, l'homme céleste, vous enseigne à croire, et voyez comment elles sont opérées en Dieu. Que tout homme et toute femme laisse le Christ demeurer dans son cœur par la foi, le Christ dans l'homme et dans la femme, et que vos bouches soient ouvertes à la gloire de Dieu le Père, afin qu'il gouverne et règne en vous. Nous ne devons plus laisser Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, être mis dans une étable parmi les chevaux et les ânes, mais il doit maintenant avoir la meilleure chambre, le cœur, et l'esprit grossier et débauché doit être chassé. Qu'il règne donc, lui à qui appartient le droit, lui qui a été conçu du Saint-Esprit, par ce même Saint-Esprit vous l'appelez Seigneur, dans ce même Saint-Esprit vous priez, et vous avez consolation et communion avec le Père et avec le Fils. Sachez donc le triomphe en cela, et en Dieu et sa puissance, dont le diable est exclu, et dans la semence qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, la pierre de fait et la pierre angulaire, en laquelle est mon amour pour vous, et en laquelle je repose. Votre ami, George Fox Postscriptum, et, amis, prenez garde à la manière dont vous posez vos pieds parmi les plantes tendres qui poussent hors de la terre de Dieu, de peur de les piétiner, de les blesser, de les meurtrir ou de les écraser dans la vigne de Dieu. Après être resté de premier jour à Swarthmore, et avoir visité des réunions aux alentours, je passai dans le Westmoreland pour la même œuvre, jusqu'à ce que j'arrive chez John Odlan, où se tenait une assemblée générale. La nuit précédente, j'avais eu une vision. Une créature désespérée venait pour me détruire, mais je remportai la victoire sur elle. Le lendemain, à l'heure de la réunion, vint un certain Otway avec quelques rustres. Il tourna autour de l'assemblée à cheval, l'épée ou la rapière à la main, et tenta de disperser les amis pour parvenir jusqu'à moi. Mais la réunion étant immense, les amis se tenaient serrés, de sorte qu'ils ne pouvaient pas facilement parvenir jusqu'à moi. Après avoir tourné plusieurs fois furieux, et voyant qu'il ne pouvait pas entrer, étant aussi contenu par la puissance du Seigneur, il finit par s'en aller. Ce fut une réunion glorieuse qui se termina paisiblement, et la puissance éternelle du Seigneur vint sur tous. Mais cet homme sauvage rentra chez lui, devint fou, et peu de temps après mourut. J'envoyai un écrit à John Blakeling pour qu'il le lui lût pendant qu'il était malade, lui montrant sa méchanceté, et il en reconnut quelque chose. De là je passai par Kendall, où un ancien mandat ordonnait de m'arrêter, et les constables me voyant, coururent chercher leur mandat pendant que je traversais la ville à cheval, mais avant qu'ils puissent m'approcher avec, j'étais déjà passé et leur échappé ainsi. Je voyageai vers le nord, visitant des réunions, jusqu'à ce que j'arrive à Strickland Head, où j'eus une grande assemblée. La plupart de la gentry de ce pays s'étant rassemblée à une course de chevaux, non loin de la réunion, je fus poussé à aller leur déclarer la vérité, et un chef constable qui s'y trouvait les admonesta aussi. Notre réunion fut paisible, le Seigneur était avec nous, et par sa parole et sa puissance les amis furent affermis dans la vérité éternelle. De là nous passâmes dans le Cumberland, où nous eûmes beaucoup de réunions précieuses et vivantes. Après avoir voyagé jusqu'à Gilsland et y avoir tenu une réunion, nous arrivâmes à Carlisle, d'où ils avaient l'habitude de chasser les amis. Mais une grande inondation survint pendant que nous y étions, de sorte qu'ils ne purent pas nous chasser de la ville. Nous y eûmes donc une réunion le premier jour. Après quoi nous passâmes à Abbeyholm et y eûmes une petite réunion. C'est un lieu où j'avais dit aux amis, longtemps auparavant, qu'un grand peuple sortirait là pour le Seigneur, ce qui s'est depuis accompli, et une grande réunion y est rassemblée pour le Seigneur dans ces contrées. Je passai de là à une assemblée générale à Langland, dans le Cumberland, qui était très grande, car la plupart des gens avaient tant abandonné les prêtres que, dans certains endroits, les églises à clocher restaient vides. Et John Wilkinson, prédicateur que j'ai souvent nommé auparavant, qui avait trois églises à clocher, avait si peu d'auditeurs restants que, renonçant à prêcher dans les églises à clocher, il établit d'abord une réunion dans sa maison et y prêcha à ceux qui restaient. Ensuite il mit en place une réunion silencieuse, comme les amis, à laquelle quelques-uns vinrent, car la plupart de ses auditeurs étaient devenus amis. Ainsi il continua jusqu'à n'en avoir plus qu'une demi-douzaine, les autres l'abandonnant toujours et étant devenus amis Quakers. Enfin, lorsqu'il en eut si peu, il venait à Partsey Crag où les amis avaient une réunion de plusieurs centaines de personnes, tous venus s'asseoir sous l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, et il se promenait autour de la réunion les premiers jours, comme un homme qui parcourt les communaux à la recherche de moutons. Durant ce temps, je vins à cette réunion de Partsey Crag, et lui, avec trois ou quatre de ses partisans qui étaient encore avec lui, vinrent à la réunion ce jour-là, et tous furent pleinement convaincus. Après la réunion, Wilkinson me posa deux ou trois questions, auxquelles je répondis à sa satisfaction. À ce moment-là, il rejoignit la Société des Amis, devint un ministre capable, prêcha l'Évangile librement et amena beaucoup de gens à l'enseignement gratuit du Christ. Et après avoir continué de nombreuses années dans le libre ministère de Jésus-Christ, il mourut dans la vérité, l'année 1675. Depuis quelque temps, je sentais des attirances dans mon esprit pour aller en Écosse, et j'avais écrit au colonel William Osborne d'Écosse, le priant de me rencontrer, et lui, avec quelques autres, était sorti d'Écosse pour venir à cette réunion. Après qu'elle fut terminée, ce qui, dit-il, était la réunion la plus glorieuse qu'il eût jamais vue de sa vie, je passai avec lui et sa compagnie en Écosse, ayant Roer Widdes avec moi, homme tenant contre l'hypocrisie, la tromperie et la pourriture des prêtres. La première nuit de notre entrée en Écosse, nous logeâmes dans une auberge. L'aubergiste nous dit qu'un comte habitait à environ un quart de mille, qui désirait me voir, et il avait laissé dire chez lui que, si jamais je venais en Écosse, on le lui fasse savoir. Il nous dit qu'il y avait trois ponts-levis pour accéder à sa maison, et qu'il serait 9 heures avant que le troisième pont fût abaissé. Voyant que nous avions du temps le soir, nous allâmes à pied jusqu'à sa maison. Il nous reçut très affectueusement et dit qu'il serait allé avec nous dans notre voyage, mais qu'il était déjà engagé à aller à un enterrement. Après avoir passé un moment avec lui, nous nous séparâmes très amicalement et retournâmes à notre auberge. Le lendemain matin, nous poursuivîmes notre route et, passant par Dumfries, arrivâmes à Douglas, où nous rencontrâmes quelques amis. De là nous passâmes à Reds, où nous eûmes une réunion bénie au nom de Jésus, et le sentîmes au milieu de nous. En quittant Reds, nous allâmes à Badcow et y tînmes une réunion, à laquelle vint une abondance de gens, et beaucoup furent convaincus. Parmi eux se trouvait une personne appelée une lady. De là, nous passâmes vers les Highlands, chez William Osborne, où nous recueillîmes les souffrances des amis et les principes des prêtres écossais, qui se voient dans un livre intitulé « Les principes des prêtres écossais, Back Next ».